Otani fait trembler les colonnes du Temple et quelques joueurs autonomes toujours disponibles.
Plusieurs jeunes joueurs ont percé la formation de leur équipe respective et on parle également des Blue Jays.
Du rififi au sein de l'Association des joueurs.
Symposium de baseball Québec et la question de la semaine et notre segment sur les cartes de baseball.
En jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado Compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Marc, on aimerait bien parler de des formations. On va le faire éventuellement, sauf que le dossier Shohei Ohtani fait jaser depuis près d'une semaine. Bon, le baseball majeur a lancé une enquête. On ne sait pas encore là, ce qui arrive du côté juridique. Sauf que on se croise les doigts là, que Ohtani ne soit pas impliqué dans une histoire de gambling parce que c'est dans le fond, c'est ça le fond de l'histoire.
Oui, bien surtout du gambling au niveau du baseball, parce que s'il fait du gambling ailleurs, je veux dire, c'est... regarde la promotion du gambling aujourd'hui dans le monde du sport, là. Faut se regarder un petit peu dans le miroir. Donc, effectivement, bon, c'est plate. C'est surtout plate pour les Dodgers. Bon, on a investi, vous savez, 700 millions de dollars sur le joueur. Rappelle-toi les Dodgers qui avaient investi beaucoup sur Trevor Bauer. Ça a mal tourné, cette affaire-là. Mais effectivement, c'est le visage du baseball actuellement, Shohei Ohtani. Donc, tu veux pas l'associer à quelque chose, bon, d'illégal. Ceci étant dit, Shohei Ohtani devrait parler ce lundi. Donc, évidemment, lorsqu'on enregistre ce balado, il n'a pas encore parlé aux médias, mais... Écoute, c'est sûr que c'est un peu louche. J'ai hâte d'avoir, bon, la version d'Ohtani dans tout ça. L'interprète avec, semble-t-il, beaucoup de liberté, en tout cas, si on laisse, si on regarde les chiffres mentionnés. Mais c'est une tâche. C'est pas ça que tu veux en début de saison avec, évidemment, le joueur, comme j'ai mentionné, le visage du baseball majeur. Donc, on espère que c'est... On espère que c'est un dossier qui peut se régler rapidement, mais dans ce cas-ci, si jamais il a effectivement été pris dans la main dans le sac, comme on dit, avec des paris sportifs baseball. Le problème, c'est que le baseball n'a pas commencé non plus. Donc, est-ce que ça date de... Bon, de combien de temps, tout ça, là? Mais bon, c'est pas le genre de publicité que le baseball recherchait avant un début de saison, qui va être une saison fort excitante, mais là, toute l'attention est tournée vers ce sujet-là.
Oui, puis écoute, ce qui complique la chose, c'est qu'en Californie, encore, c'est pas tout à fait légal, là, les paris sportifs. Donc, c'est l'aspect légal des paris qui ont été placés là, qui complique un petit peu la situation. Mais selon la plupart des gens qui sont autour de Shohei Ohtani, on parle de ses coéquipiers ou quoi que ce soit d'autre, on serait très étonné que Shohei Ohtani là, se soit intéressé à ce genre de truc compte tenu de son intérêt vers les autres sports, qui est très, très limité, dit-on.
Ben, écoute, effectivement, ça, c'est important de mentionner. On a parlé à ses anciens coéquipiers, en fait, des Angels et même ceux des Dodgers. Ouais. Et effectivement, leur réponse a été que, ben là, on n'est même pas sûr s'il y a vraiment un intérêt sur les autres sports. Donc, il semble quand même être, tu sais, la bonne personne. C'est-à-dire que, tu sais, il semble être un joueur, enfin, une personnalité qui... je dirais pas parfaite, là, mais qui a une image quand même très, très solide à ce niveau-là. Ouais. Donc, ça serait surprenant. Mais ceci étant dit, on va quand même attendre l'enquête, on va entendre ses propos. Ouais. Et lui, certainement, qui veut pas attirer l'attention pour ce genre de choses. Et je suis convaincu qu'il espère que on va pouvoir se concentrer sur la saison des Dodgers qui est déjà commencée, mais qui va évidemment s'amorcer un peu comme tout le monde au cours du week-end prochain, là.
Écoute, Marc, puisqu'on parle de ces deux matchs qui ont été disputés en Corée du Sud, ça a été un succès bœuf. Est-ce que tu as retenu quelque chose de ces deux matchs-là? Moi, je pense que c'est très difficile de le faire, là, alors que, bon, on a traîné quelques joueurs de plus et les lanceurs sont pas tout à fait dans leur forme optimale. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ces deux matchs-là qui ont été divisés 1-1 là, entre les Dodgers et les Padres?
Ben, tu as raison de mentionner que ça a été excellent. On a quand même eu bon, une victoire de chaque côté. Mais moi, ce que je retiens, c'est la prestation de Yamamoto. Ça n'a pas été un grand camp d'entraînement pour lui. On disait, bon, il travaille sur des choses. Mais là, rien de convaincant. Je dirais pas que c'est inquiétant, là, parce que évidemment, l'échantillon est trop mince. Mais bon, est-ce qu'on a parié, là, pour s'en faire de jeu de mots avec Otani, est-ce qu'on a parié un petit peu trop sur un joueur qui n'avait jamais lancé dans le baseball majeur? T'sais, il y a eu beaucoup d'argent, on le sait, les gens disaient « Oui, mais on a étudié sa balle fronde, le mouvement de sa balle fronde, les statistiques au niveau là, des rotations de balles et tout ça, faisant en sorte que c'est une des balles frondes les plus efficaces de tout le baseball. Donc, c'est là qu'on s'est fié un peu de se dire, il vaut tant d'argent. Mais alors, il y a quand même toujours un risque lorsque tu prends un joueur qui n'a jamais joué dans le baseball majeur et lui donner autant d'argent. Je vous dis, on va lui donner évidemment tout le temps pour se reprendre. Moi, je suis convaincu qu'il va connaître du succès dans le baseball, mais ça, selon moi, va prendre plusieurs départs avant que ce gars-là s'installe comme il peut être. Et plusieurs départs, ça peut être une demi-saison, là. Et est-ce qu'une demi-saison, ben, est-ce qu'on aura la patience chez les Dodgers, compte tenu du fait que bon, on a investi tout cet argent-là, donc les attentes sont plus qu'élevées. Alors, ça reste à voir, mais moi, c'est ce que je retiens, c'est sa prestation à lui. Je ne veux pas lui taper le clou ou lui taper trop sur la tête, mais c'est quand même une situation que les Dodgers ne souhaitaient pas, là.
Bon, Marc, on va parler baseball et des joueurs autonomes. Il y en a quelques-uns là, qui ont été embauchés, dont Blake Snell, finalement. C'est un contrat payant par année. On a quand même eu un bon salaire, mais c'est pas pour longue durée. Ça nous étonne pas, Marc, on l'avait vu venir là, pour ce genre de... Ce qui m'étonne un peu, c'est la clause de sortie de Blake Snell. Pourquoi ça m'étonne? Parce qu'il n'y aura pas plus de pouvoir de négociation après la prochaine année. Je veux dire, il vient de gagner le trophée Cy Young. Je veux dire, tu peux pas avoir un plus grand pouvoir de négociation que tu avais déjà en gagnant le trophée Cy Young. Bon, ceci étant dit, après avoir fait mouche à plusieurs occasions des Giants, finalement... embauche quand même des joueurs intéressants. T'ajoutes Snell, t'ajoutes Matt Chapman, t'ajoutes Lee, t'ajoutes Jorge Soler. On n'en parle pas beaucoup, mais Soler, c'est de la puissance que tu n'avais pas. Il y a des joueurs qui n'ont pas voulu aller à San Francisco, Mac. Le bruit a couru là, que c'est plus une ville aussi attirante qu'auparavant. Bon, on a fait nos devoirs quand même de ce côté-là. Est-ce que les Giants vont être capables d'être compétitifs cette année?
Bon, écoute, il y a deux volets à ta question. Évidemment, rapidement, pour son contrat à Blake Snell, je vous dirais, ouais. Ben, effectivement, là, Scott Boras, ça a été difficile. Tu l'as dit.
Oui.
À moins de répéter un autre Cy Young, ça va être difficile de renégocier par la suite. En tout cas, tout ça pour dire que la stratégie n'a clairement pas fonctionné. Puis on me dira ce qu'on voudra. Je suis assez convaincu de ça. Maintenant, j'aime ce que les Giants ont fait. Effectivement, on va être compétitif. Mais là, compétitif, ça ne veut pas dire qu'on va faire les séries. Mais compétitif, on est dans une section où les Diamondbacks sont excellents. On vient de parler des Dodgers. Moi, je n'haïs pas du tout les Padres avec surtout l'acquisition de Dylan Cease dernièrement. Donc, ça va être une section extrêmement compétitive. Et oui, les Giants vont être dans le coup, mais je pense pas que ça sera suffisant, évidemment, pour se rendre en série. Mais est-ce qu'on peut gagner 85-86 matchs avec cette équipe-là? Absolument. Mais c'est sûr que ce que j'aime de l'ajout de Blake Snell, c'est qu'on combiné avec Webb, ça devient un duo quand même très solide.
Ouais.
On sait que les Giants ont toujours eu, rappelez-vous, dans leurs années où ils ont rapporté trois séries mondiales au cours de six années, on avait toujours un Bumgarner qui était là avec un autre qui combinait. Il y avait toujours cette espèce de duo de lanceurs partant là. Alors, c'est pas une mauvaise chose de se concentrer là-dessus. C'est un stade qui favorise les lanceurs. Donc, on peut s'attendre à ce que Snell puisse connaître certainement du succès avec cette équipe-là. Ça aidera pas un gars comme Chapman, par exemple, de jouer à San Francisco et d'aider, selon moi, ses statistiques en attaque. Mais... lorsque tu es un lanceur comme Blake Snell ou Webb ou peu importe qui est là, c'est sûr que tu vas être meilleur avec un Chapman au troisième but, puis avec un champ extérieur si vaste.
Oui, et Marc, je l'ai mentionné, je vais le répéter, Jong-Woo Lee, je pense que c'est une carte cachée pour les Giants. Il a eu un bon camp d'entraînement, il va jouer au champ-centre, il a besoin d'être bon parce qu'il y a de la place à couvrir là-bas. J.D. Martinez avec les Mets de New York, Marc, ça fait en sorte que, bon, Mark Vientos a été retourné dans les ligues mineures. On va donner le troisième but à Petey en début de saison. Je sais pas, je suis pas sûr que... Tu parles de stand qui ne favorise pas les frappeurs, c'en est un autre, même si l'année passée, ça s'est bien passé pour J.D. Martinez. Il ne faut pas s'attendre à un contrat à long terme dans son cas. Je ne sais juste pas. On s'en va où avec cette embauche-là chez tes
Mets? Écoute,
je pense pas là, qu'on vise ici.
Ouais, c'est... Moi, j'ai l'impression que ça va être quand même pas facile chez les Mets cette année. Là. Évidemment, tout repose sur Alonso. On en a déjà parlé. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on va voir... Parce que il devient joueur autonome. Donc, ça, c'est sûr que c'est un sujet qui va réapparaître durant l'été. Mais c'est un bon coup de bâton, J.D. Martinez. Moi, c'est juste que là, bon, ça donne un cœur de formation intéressant, mais on avait Vogelbach l'année passée, qui est un peu le même genre de frappeur, mais bon, l'autre est un gaucher, l'autre est droitier, mais pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup d'options avec J.D. Martinez, là, de le faire jouer ailleurs. Pour moi, ça n'ajoute pas tant de victoires que ça à l'affiche des Mets de New York. T'sais, j'aurais aimé mieux qu'on fasse confiance à un gars comme Viento, justement, qu'on lui donne du temps de jeu, qu'on le développe un peu. Là, tu as parlé de BT au troisième, c'est bien. Mais à un moment donné, il va falloir que tu te renouvelles. Là. Et c'est là que je trouve que, bon, c'est correct. J.D. Martinez, je pense, est capable d'en donner encore. Mais tu sais, dans le fameux War, Alain, je vois pas comment ça va vraiment changer là, la donne à ce niveau-là.
Bon, Marc, il reste encore des joueurs autonomes, mais ça nous amène à la question de la semaine. Parce qu'il en reste un gros, c'est Jordan Montgomery. Donc, la question de la semaine qui est présentée par Sylvain Autoville, c'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Sylmar avec un Y. Et la question, c'est quand va-t-il signer et où va-t-il aboutir Jordan Montgomery? Et Marc, il y en a plusieurs qui pensaient qu'il était pour revenir au Texas parce qu'il y a quand même quelques lanceurs sur la liste des joueurs blessés. Texas qui vient d'embaucher Michael Lorenzen. S'il revient, ce ne sera pas tout de suite.
Non, mais je sais qu'il s'entraîne beaucoup. Il a lancé même l'équivalent de 7 manches. Là, mais tu sais, bon, ça reste que c'est pas un entraînement là, vis-à-vis des frappeurs du baseball majeur. Mm-hmm. Mais dans le cas de Montgomery, rapidement, c'est que il peut changer la donne, lui-là. Là. C'est-à-dire que si Montgomery, par exemple, se retrouvait avec les Yankees, j'en doute, mais s'il se retrouvait avec les Yankees, là, soudainement, bon, la perte peut-être... Je ne dis pas qu'il va remplacer départ par départ Garrett Cole, mais soudainement, les Yankees, selon moi, seraient pas mal meilleurs, juste avec un autre lanceur partant de qualité comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que il peut changer la donne. C'est sûr que s'il se retrouve avec une équipe bon, qui n'aspire pas nécessairement là, aux séries, bon, oui, ça va changer quelque chose, mais pas au point où ça pourrait faire avec une équipe qui leur manque juste peut-être cet élément-là, dont les Yankees. Moi, je pense que ça n'arrivera pas avec les Yankees, ça n'arrivera pas avec les Red Sox, parce que ça aurait dû arriver déjà. Certains parlent encore des Giants, parce qu'on semble être sur un élan, mais écoute, ça va faire beaucoup de sous. Et lui, une des raisons pour laquelle il n'est pas encore signé, c'est qu'il recherche ce fameux contrat à long terme, chose qu'on n'a pas réussi à faire avec, bon, Snell et Chapman et compagnie. Donc, est-ce qu'il va signer rapidement ou non? Ça reste encore un mystère. Mais c'est pour ça que c'est quand même une embauche importante parce qu'il peut changer. Tu sais, il se retrouve demain matin avec les Tigers de Détroit là, que j'aime bien là, cette année. Oups, soudainement, on peut-être chauffer un petit peu plus derrière, par exemple, des Twins. Donc, c'est pas rien là, que le fait que ce gars-là n'a pas encore été signé, là, selon moi, ça peut changer vraiment bien des choses.
Donc, on vous invite à envoyer vos commentaires à propos de cette question qui paraît sur Facebook, évidemment, et sur notre site Internet également, compte complet Balado.
Je vous rappelle notre commanditaire principal, Plan de match à Boucherville, cage de frappeur. J'y suis d'ailleurs en ce moment, magnifique gant derrière moi. Donc, si vous avez besoin d'équipement de baseball, Plan de match à Boucherville. Et si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur notre balado, savoir où il est disponible, eh bien, allez sur notre site internet www.comptecomplet.com.
Oui, un endroit aussi où vous pouvez exercer votre élan ou tout simplement vous défouler sur la machine à balle. Marc, il y a plusieurs jeunes là, qui n'ont pas encore d'expérience dans le baseball majeur qui ont réussi à se tailler un poste au sein de l'équipe. Celui qui n'a pas réussi à le faire, c'est celui dont on parlait le plus, c'est Jackson Holliday avec les Orioles de Baltimore. Puis c'est pas faute de production, bien au contraire. C'est juste, ça témoigne de la profondeur actuelle des Orioles de Baltimore.
Il a été sensationnel au camp d'entraînement. Il a tout fait pour être... pour être de la formation, mais je pense que c'était déjà dans les cartes. Écoute, le gars a 20 ans, là. Est-ce qu'il va jouer dans le baseball majeur en 2024? Selon moi, assurément. On va le voir, là. Les longues saisons, il y a des blessures, il y a des ci, des ça. Mais quel impact il a eu? Et je pourrais dire, Alain, que pour être un gars qui analyse beaucoup les élans des frappeurs, écoute, ce gars-là, honnêtement, génère une belle puissance. Mécaniquement, c'est fantastique ce qu'il fait, ce qu'il accomplit. Donc ça, il a un avenir devant lui qui est tout à fait extraordinaire. Donc on n'est pas inquiet pour lui. Par contre, ce que j'aime, et tu viens de le mentionner, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont réussi à se tailler un poste. Et j'adore le fait que les équipes maintenant ont fait confiance à des jeunes... Tu sais, de 21 ans, 22 ans, pas tant d'expérience que ça encore dans le baseball professionnel, mais qui viennent ajouter au spectacle. On se cachera pas, là. On va voir des jeunes cette année. Il y en a plusieurs, Merrill, on l'a vu d'ailleurs avec les Padres qui patrouillent le champ centre. Alors, c'est bon de voir ces jeunes-là parce qu'ils se donnent, à fond, mais ils nous donnent un bon spectacle. Et... T'sais, ça fait en sorte que le baseball est plus athlétique encore. Ça a changé beaucoup, Alain, au cours des 20-25 dernières années, puis ça continue de changer dans la bonne direction. Et ça, pour les amateurs de baseball, là, c'est pour notre plus grand plaisir. Là.
Oui, écoute, Marc, dans le cas de Churio avec les Brewers, Cole Keith avec les Tigers, les deux avaient signé des contrats de plusieurs saisons avant même de disputer leur premier match. Le plus surprenant, c'est peut-être Wyatt Langford avec les Rangers du Texas, parce qu'on a déjà Evan Carter. Donc, une équipe qui vient de gagner la Série mondiale, tu dis, il n'y a pas beaucoup de places disponibles. Et pourtant, les Rangers font le pari que ces deux gars-là vont contribuer à la cause de l'équipe. Carter, on pouvait s'en douter, Langford, Marc, avec le camp d'entraînement qu'il a eu, mais il aurait pu se retrouver dans la même situation que Jackson Holliday. Mais les Rangers font le pari que, écoute, il est assez bon pour nous aider dès cette année. Et écoute, si tu le gardes, c'est parce que tu vas le faire jouer.
Exact. Mais écoute, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir un joueur comme Langford qui arrive puis qui, oui, les attentes sont élevées. Son avenir est presque assuré. Mais il arrive là puis. Il produit d'une manière extraordinaire tout au long du camp d'entraînement avec les Rangers du Texas. C'est une belle histoire parce que c'est bien beau être un prospect, c'est bien beau être un joueur d'avenir, puis les attentes sont élevées, puis toi, tu arrives au camp d'entraînement, puis tu as 20 ans, tu as 21 ans, puis là, tu vois que toutes les attentes, puis tu joues pour l'équipe qui vient de remporter la Série mondiale. Tu sais, il faut avoir une force mentale quand même solide pour arriver là, puis de produire comme il l'a fait, une belle confiance en lui. Puis il l'a fait. Bruce Bochy était très impressionné dès le début du camp d'entraînement. Puis il avait dit, écoute, si ce gars-là poursuit, regarde, il va nous forcer la main. Il a forcé la main de l'organisation. C'est belle histoire. Puis c'est le fun de voir une équipe qui a remporté la Série mondiale, puis qui se retrouve encore avec des jeunes. Tu as parlé évidemment de Carter. Young qui est au troisième. Tu sais, on a une jeune équipe malgré tout. Bon, oui, il y a les vétérans, Seager, Semien et tout ça. Mais tu sais, les Rangers, ça va être difficile de répéter. Alain, on sait que c'est pas facile de répéter là, les séries mondiales coup sur coup. Puis on se retrouve encore dans une division qui n'est pas évidente. Puis d'ailleurs, il faut juste rappeler que les Rangers ont fait les séries quoi, au dernier week-end de la saison, là, l'an dernier. Alors, des défis de taille avec des jeunes joueurs comme Carter, Langford. Moi, je trouve que les Rangers s'en vont dans la bonne direction. Il y aura au Monticule, on espère le retour évidemment de quelques vétérans, là, mais... Belle histoire, celle de Langford. Tu as parlé de Chorio. J'ai bien de voir aussi les Tigers de Détroit avec une coupe de jeunes joueurs. Donc, c'est bon pour le baseball. C'est encourageant aussi pour les jeunes qui sont repêchés ou qui signent, tu sais, qui ont des bonnes saisons dans les ligues mineures. Le baseball se rajeunit, puis la tendance se poursuit.
Oui, exact. Écoute, on va parler des Blue Jays de Toronto. Marc, il y a des choses qui se précisent. Sans surprise, Escobar a été libéré. Par contre, Espinal est parti.
Ouais.
C'est probablement dû au très, très bon camp d'entraînement de Ernie Clement. Quand on parle de joueur qui a saisi l'occasion, il avait quand même créé une bonne impression l'année passée. Il a poursuivi lors du camp d'entraînement. Daniel Vogelbach va commencer l'année avec l'équipe. Je pense qu'il a frappé. C'est ce qu'on lui demandait. Ça aurait, à mes yeux, si tu le demandes, si tu invites ce gars-là au camp d'entraînement puis il frappe, je veux dire, il a fait ce que tu lui demandais. Je pense qu'il mérite de faire l'équipe, honnêtement. Je sais que tu n'es pas le plus grand fan de Vogelbach, mais si on veut être juste envers ce qu'il a accompli pendant le camp, il mérite sa place.
Oui, puis je vous dirais, le fait que, bon, Votto a été signé sur le tard, a joué qu'un seul match, et là, bon, une petite blessure à la cheville. Alors, il est clair que Votto va commencer l'année au niveau 3A. Alors, peut-être. Tu sais, ça a rendu la décision peut-être un peu plus facile, surtout évidemment que Vogelbach, tu l'as dit, a quand même démontré sa belle puissance durant le camp d'entraînement. Ceci étant dit, la formation des Jays qui commence la saison donc ce jeudi sera peut-être pas la même au cours des semaines qui vont suivre. Bon, ceci étant dit, la bonne nouvelle du côté des Blue Jays, c'est que Kevin Gausman va lancer au moins un match au camp d'entraînement avant le début de la saison. Et, tu sais, on s'inquiétait un peu pour Gausman. Donc, si c'est concluant dans le cas du lanceur droitier, ben là, à ce moment-là, on peut s'attendre à ce qu'il soit prêt pour le début de la saison avec, évidemment, une limite de lancer. Ça, c'est la bonne nouvelle, selon moi. Et, mais ça reste que chez les Blue Jays, on commence. Tu sais, on a été épargné par les blessures la saison passée, Alain.
Oui.
Et là,
oui.
Ben là, cette année, c'est en relève là, qu'on a des petits des petits pépins à ce niveau-là. Et le début de saison des Blue Jays, c'est 10 matchs à l'étranger. Et pas contre n'importe qui, les Rays, les Yankees et les Astros. Alors, tu sais, il y a un vrai test pour cette équipe-là. D'entrée de jeu de la saison 2024. Alors, on espère évidemment que les Vlad, les beaux bichettes de ce monde, ben, vont être fin prêts pour le début de la saison parce que les défis vont être de taille dès le départ. Là.
Écoute, la section Est américaine, là, c'est une boîte à surprise à mes yeux cette année. Là. Les Orioles semblent se détacher, mais pour le reste, Marc, honnêtement, là, j'ai eu énormément de difficultés de mes prédictions de cette section-là cette année. Prédictions qu'on pourrait voir dans nos émissions d'avant-saison, là, mais je ne sais pas toi si tu as réussi à te faire une tête, là, mais moi, ça a été extrêmement difficile de mon côté.
Ben, écoute, moi, je vais te dire, Alain, là, c'est que je suis pas mal convaincu que les Orioles ont la meilleure équipe sur papier et que les Red Sox ont la moins bonne. Bon. C'est les trois autres équipes où là, ça semble être un peu plus difficile parce qu'il y a des défis dans chacune des équipes. Il y a des défis à relever. Il y a des joueurs qui ont des choses à prouver. Ça va rester quand même une section qui va être extrêmement serrée. Mais je te dirais que rapidement, même pour moi, par exemple, les deux centrales, ça peut devenir des sections extrêmement serrées. Je ne dis pas que ça va être des équipes qui vont remporter 95 matchs, mais ça va être extrêmement serré. Fait que oui, cette année, pour les prédictions, c'est pas aussi facile que par les années passées, je vous dirais. Ouais. Mais bon, c'est ça qui est intéressant. C'est le fun d'attendre aussi au dernier moment avant de faire nos prédictions en contenu de tous les changements qu'il y a eu, des embauches, les blessures, les ci, les ça. Alors, nos prédictions là, de but de camp d'entraînement sont peut-être pas les mêmes que fin de camp d'entraînement. Et c'est ça la beauté de ce sport-là. Donc, à suivre. Puis, j'ajouterais à ça ce qu'on vient de parler de Montgomery. Si lui s'ajoute à une équipe, bon, alors... Si on a de la difficulté, Alain, à faire il y a des défis additionnels pour nos prédictions, bien, ça veut dire qu'il y a peut-être une certaine parité là, qui s'installe, puis ça, c'est jamais mauvais.
Oui. Marc, c'est le temps de la carte de baseball de la semaine, une présentation de Card Draisunion Depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On va s'arrêter sur probablement un des plus grands ambassadeurs de baseball que le Québec ait connu, Claude Raymond. Et 1971, c'était sa dernière année dans le baseball majeur avec les Expos de Montréal. Opeachy qui a publié cette carte numéro 536. Paraît dans l'ensemble top sur les États-Unis et dans l'ensemble Opeachy au Canada. Donc, il y avait quand même une deuxième carte au Canada. C'est la carte 202 exclusive à OPG dans ce cas-là. Comme je le mentionnais, c'est la dernière carte de Claude Raymond. C'est qu'il avait été libéré, lui, tout juste avant le début du camp d'entraînement de 1972. Il n'a jamais reçu d'invitation par la suite là, pour retourner dans le baseball majeur. Jim Fanning qui a admis par la suite, plusieurs années plus tard, là, que la décision de... pas de le libérer, mais de le libérer au moment où on l'a fait, là, ça manquait peut-être un petit peu de classe, Marc. Je veux dire, c'était le pire moment là, pour libérer quelqu'un.
Ouais, mais écoute, c'est clair, mais ce qu'on retient de Claude Raymond, évidemment, c'est sa carrière exceptionnelle. Faut pas oublier que ce gars-là, c'était pas des conditions faciles dans lesquelles il s'est retrouvé là, pour atteindre le baseball majeur. Un match des étoiles, c'est vraiment pas rien. Claude, ben, d'ailleurs, qui est reconnu un peu d'être le Jean Béliveau du baseball, et pour cause. Ouais. Carrière tout à fait exceptionnelle qui a inspiré plusieurs d'entre nous.
Oui, absolument, et qui a été longtemps associé au baseball par la suite, notamment à la radio là, et à la télévision. Marc, tu as eu l'occasion de participer au symposium de Baseball Québec au cours du dernier week-end. J'aimerais savoir un petit peu ce qui en est ressorti et le but d'organiser un tel symposium et qui y participe.
Bien, vous savez, moi, je fais partie du conseil d'administration de Baseball Québec et on a décidé d'organiser un symposium parce que, vous savez, une fédération, c'est beaucoup de bénévoles et les bénévoles travaillent très fort, alors il faut... parler directement à ces bénévoles-là. Et dans le passé, ben, tu sais, les communications, bon, se faisaient de façon électronique, c'était pas toujours évident, puis bon. Et là, on a décidé d'inviter carrément les présidents de toutes les associations de baseball. Et il y en a des associations de baseball au Québec. Je parle pas des régions, là. Je parle vraiment des associations locales. Alors, on a invité ces gens-là à venir dans les magnifiques nouveaux bureaux là, des fédérations sportives du Québec, à la Maison des loisirs. Et ça a été un grand succès parce qu'il n'y a rien comme parler aux gens directement. Des défis que ces gens-là avaient, comment on peut les supporter. Donc, un très grand succès. Je suis convaincu que les gens qui étaient présents des associations ont fort apprécié. Vous savez, avoir 40 000 jeunes sur les terrains de baseball au Québec, là, il faut s'en occuper, vous savez, on a Michel Laplante qui nous a fait une très, très belle présentation. Et Michel nous a parlé de la différence, parfois, des petits gestes que les gens posent qui changent peut-être, à la limite, le destin d'une personne. Tu sais, lorsque une personne décide de s'impliquer dans le baseball puis qu'il trouve qu'un jeune a un certain potentiel puis vient t'entraîner avec nous, tu joues pas au baseball, viens t'entraîner avec nous. Puis là, ben il y a une organisation qui est derrière, qui pose des gestes, qui aide à faire simplement les calendriers ou un parent bénévole qui s'implique comme instructeur ou simplement des gens qui décident d'arranger les terrains, bien, tout ça, à un moment donné, fait une différence puis ça amène à de magnifiques histoires. Donc, juste de venir leur parler comme ça et les encourager puis les remercier de leur implication, je pense que ça a fait une grosse différence. Donc, on s'attend à un bel été sur les terrains de baseball au Québec pour nos jeunes. Et il ne faut pas oublier nos filles, baseball féminin, qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. C'est extraordinaire. Donc, on est très heureux de ça.
Oui, et Marc, c'est de les impliquer aussi parce qu'ils ont probablement des suggestions à faire.
Ah oui,
aussi,
absolument.
Donc, vous devez tenir compte.
Une belle conversation, en fait. Et effectivement, il y a eu un atelier à un moment donné où c'était posé votre question au directeur général. Donc, allez-y. Tu sais, souvent, là, il y a des frustrations, il y a des défis. Tu sais, chaque association, chaque ville, en fait, ont des défis différents. Là. Les régions éloignées, c'est pas toujours évident. Les calendriers... Il y en a que l'été commence un peu plus tard que d'autres, donc, mais c'est vraiment agréable, je vous dis, là, que présentement, on a une belle fédération où les gens sont extrêmement motivés à ce que ça fonctionne et qu'on présente, qu'on aide nos jeunes à avoir la plus belle expérience possible sur les terrains de baseball.
Oui. Bon, Marc, on va parler de ce qui se passe derrière les portes closes, en fait. Pas tout à fait, parce que des choses sont sorties dans l'Association des joueurs du baseball majeur. Moi, je suis pas surpris. Ce qui se passe, en fait, c'est que, on sait que les joueurs des ligues mineures font partie maintenant du syndicat du baseball majeur grâce au travail qui a été effectué par Harry Marino. Bon, Marino, c'est qui? Bon, ben c'est un ancien, bon, pas un ancien, mais il est toujours membre du bureau de l'Association des joueurs. Sauf que là, lui, il a travaillé en coulisses au cours des derniers mois pour tenter de prendre la place comme négociateur principal de Bruce Meyer, qui est celui qui est le principal négociateur là, des conventions collectives. En tout cas, la dernière, là, c'est lui qui était là. Marino veut changer un peu la dynamique et les priorités de l'Association des joueurs, voudrait qu'on tienne compte davantage des petits salariés. Juste les chiffres, le salaire moyen du baseball majeur tourne autour de 5 millions de dollars, entre 4,5 et 5, dépendant de la source. Le salaire médian, ça c'est une différence, salaire médian, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des joueurs du baseball majeur qui gagnent moins de 1,5 million et l'autre moitié qui en gagne plus que 1,5. On trouve notamment que Scott Boras a trop d'influence sur le comité de direction de l'Association des joueurs. Donc, Marino a travaillé en coulisses au cours des derniers mois pour avoir l'appui de certains membres du comité et de beaucoup de joueurs pour tenter d'avoir une plus grande influence et de remplacer Bruce Meyer. Je raconte l'histoire, Marc, tu pourras élaborer par la suite. Ce qui est arrivé, c'est que c'était... Bon, quand Tony Clark a su tout ça, Tony Clark, c'est un ancien joueur qui est à la tête de l'Association des joueurs, qui est sous contrat jusqu'en 2027. Et sa réaction, ça a été, non, c'est moi qui décide qui va être le chef négociateur. Et ça a très mal passé auprès des joueurs parce que, dans le fond, Tony Clark, c'est l'employé des joueurs. Il a tenté de se reprendre par la suite. Toujours est-il qu'on a tenté de noyer l'affaire au cours de la semaine et semble-t-il que Marino ne fera plus partie de l'Association des joueurs sous peu. Mais ça met en lumière, Marc, ce qu'on dénonce depuis un bon bout de temps, Marc, c'est-à-dire qu'au baseball, on peut dire la même chose dans l'ensemble du sport professionnel, les joueurs, les jeunes qui ne gagnent pas l'autonomie sont très, très mal payés, ne sont pas payés à leur juste valeur parce que il y a le principe d'ancienneté. Dans un syndicat, Marc, d'usine, ça peut fonctionner. Mais dans le sport professionnel, Marc, je m'excuse, là, mais c'est pas un modèle à suivre. Parce que tes meilleures années, c'est dans tes premières années. Un travailleur d'usine qui a 10 ans d'expérience, oui, ça peut rapporter, tu sais ce que tu as à faire, mais ça marche pas dans le sport. Tu as 10 ans d'expérience, malheureusement, oui, tu as des connaissances, mais c'est ton corps qui te laisse tomber. Je te laisse aller là-dessus, Marc. Je voulais juste mettre la table sur la situation présentement dans l'association.
Tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, souvent, là, ce qu'on entend des contrats de Otani, des contrats de gars de 30 millions, puis là, tu sais, évidemment, là, bon, la population générale va dire, bien, les joueurs de baseball font 30 millions par année, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens, là, mais il y en a pas beaucoup qui font 30 millions, là. Il y en a vraiment pas très, très peu. C'est 5, 6 % qui vont faire 25 millions et plus. Bon, ça n'a pas de bon sens, puis c'est vrai. Mais là, le chiffre que tu as mentionné, c'est que plus de la moitié, on est près plus de 60 % que de 50 % font 1,5 million et moins. Beaucoup d'argent, 1,5, là. C'est juste que dans l'industrie, vous voyez, il y a pas mal de différence entre 1,5 et 30. Alors, il y a une égalité là-dedans, puis je trouve ça correct, moi, de poser la question à travers l'Association des joueurs, mais avoir l'attitude qu'on a eue vis-à-vis ça, ça va brasser. Ça, là, évidemment, puis là, en plus, c'est rendu public, donc c'est pas une petite guéguerre interne qu'on n'entend pas parler. Ça va brasser. C'est un des syndicats les plus puissants aux États-Unis. Fait que ça va brasser, ça va changer les choses. Tu as parlé de Scott Boras. On en a parlé souvent cette année en raison des problèmes qu'il a eu avec la situation contractuelle. Tu sais, Scott Boras, là, pour être bien honnête, il n'aide pas le baseball. Il aide les joueurs qu'il représente. Puis qu'il a rendu des joueurs millionnaires, puis peut-être qu'il ne méritait même pas. Mais alors, les joueurs vont l'apprécier à ce niveau-là. Mais si tu parles de l'industrie du baseball, il n'a pas aidé la cause. Ceci étant dit, il y a une richesse au baseball, mais il faut être capable, selon moi, de diversifier tout ça, puis d'être capable, comme tu as mentionné, de donner l'argent ou un peu plus aux jeunes. Les jeunes, tu sais, ce sont eux là, qui donnent le spectacle puis qui performent à des niveaux pas mal plus élevés que, tu sais, je ne veux pas taper sur Chris Bryant, mais le contrat de Chris Bryant, par exemple, avec les Rockies, c'est épouvantable, là. C'est de l'argent garoché par les fenêtres. Alors, T'sais, c'est correct de s'obstiner. Là, le fait que ce soit rendu public, c'est un peu ça qui m'agace, mais en même temps, c'est peut-être ça qui va créer qu'on va se renouveler peut-être un peu à ce niveau-là, et puis que les joueurs, les jeunes vont avoir une plus grosse voix, parce que je vais vous dire une chose, là. Si quelque chose n'a pas changé, pour avoir vécu, moi, la grève de 94, là, c'est que les gros joueurs qui ont fait beaucoup d'argent ont une voix énorme. Puis les jeunes joueurs qui s'en ouais. viennent n'ont pas de voix. C'est difficile de s'exprimer. C'est difficile de dire ce qu'on pense. Alors, ce sont souvent les vétérans qui ont fait beaucoup d'argent. Puis, tu sais, d'ailleurs, rappelez-vous la dernière convention collective, le comité qui représentait les joueurs avait refusé ouais. l'offre. Mais on l'a quand ouais, même décidé. Ouais. Mais les joueurs, quand les joueurs se sont mis à voter, on a voté pour. Fait que, on voit que c'est pas ouais. parfait à l'intérieur de l'association des joueurs. Puis honnêtement, c'est correct. Je pense qu'il faut se regarder maintenant dans le blanc des yeux, puis peut-être trouver une solution. Donc, malgré la chicane qui se passe, c'est peut-être pas une mauvaise chose.
Oui, mais écoute, je suis pas très confiant que les choses vont changer. On voit ce qui va arriver avec Marino et on va. Tu sais, ben ouais. plus partie de l'association des joueurs là. Moi, j'ai l'impression que, regarde, ça va continuer comme c'était, mais ça met quand même en lumière certains défis. Est-ce que le conseil d'administration de l'Association des joueurs est trop gros parce qu'on a ajouté une quinzaine de voix là, avec, avec l'ajout des joueurs des ligues mineures? Est-ce que c'est gérable?
Ouais.
Je suis pas sûr. Moi, Marc, tu fais partie d'un conseil d'administration, une trentaine de voix là, qui représente, je sais que ça représente plusieurs joueurs, mais à un moment donné, il faut que ce soit viable.
Écoute, ça fait partie des énormes défis qu'ils ont. Puis mais moi, pour avoir été un joueur des ligues mineures pendant longtemps, je trouvais que c'est une nouvelle extraordinaire. J'espère simplement qu'il va y avoir des changements. Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas sûr qu'il va en avoir, mais j'espère ouais. qu'on va réussir à trouver ouais. un terrain d'entente éventuel. Ouais. Peut-être qu'on n'entendra pas beaucoup parler parce que je pense qu'on veut étouffer l'affaire à travers les médias. Là. Ouais. Mais j'espère ouais. qu'il peut y avoir des changements.
Ouais. Écoute, ce sera à suivre. Toujours est-il, Marc, qu'il va y avoir du baseball. Ça commence officiellement cette semaine. Et nous, ben, on vous présente notre premier match dimanche. On verra les Dodgers et Shohei Ohtani contre les Cards de Saint-Louis. Mais auparavant, afin de bien mettre la table à la saison, on vous invite à nos deux émissions d'avant-saison. Moi et Marc, nous y serons de même que notre collègue Alex Agostino. Donc, c'est mardi et mercredi. Mardi, on fera un tour de table des trois sections de la Ligue américaine. On va porter notre attention évidemment sur la section Est et mercredi, ce sera autour de la Ligue nationale. Et vous pourrez également voir quelles seront nos prédictions en vue de la saison 2024. Et évidemment, vous pourrez porter votre propre jugement sur la saison à venir avec nos analyses, évidemment les données qui sont disponibles à ce moment-là. Ceci étant dit, c'est notre dernier balado avant le début de la saison. On vous en souhaite une très, très bonne. Nous, on sera là tout au long de la campagne 2024 jusqu'à la Série mondiale. On y sera sur place cette année. Fait qu'on vous souhaite une très bonne semaine. Bon baseball, tout le monde!
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.